On a vu tout à l'heure Johnny Hogerland, le héros malheureux du Tour de France il y a 2 ans, aller dans une banderole. Et là, c'est une chute qui est intervenue, on va dire, en queue de peloton qui ne concerne aucun favori, aucun sprinter. Ce sont des seconds couteaux. Rien n'a signalé de majeur dans cet incident et surtout pas de blessés a priori, même si un coureur de l'équipe Sojasun reste au sol. On va tâcher de vous tenir au courant. Attention, Ryder Ejedal, le Canadien leader de l'équipe Garmin, est attardé. Il devrait pouvoir rentrer. Il n'a pas mis longtemps à se relever. Le Canadien, ancien vainqueur du Tour d'Italie, est attendu par un équipier.
Très bien. Alors, il est 17h sur RMC. Les infos, vous les retrouverez tout à l'heure, hein, aux alentours de 18h, à 18h pile, même très exactement. Mais là, nous sommes en plein cœur de cette course et de ce final. Alors, il se passe des choses également sur la ligne d'arrivée. On va tout de suite retrouver Pierre-Yves Leroux, notre Tintin reporter, qui est avec sa petite liaison à chef. Tout à l'heure, Cyril nous a dit en direct qu'il y avait eu un petit incident.
Non, c'est un gros incident.
Un gros incident. Pierre-Yves, que s'est-il passé? Que peux-tu nous dire?
C'est tout simple, car de l'équipe Orica Green Edge, le bus est passé sous l'arche de la ligne d'arrivée et il s'est accroché à cette arche, en fait, au-dessus de l'arche, et il est bloqué actuellement sous l'arche. Donc il y a vraiment là beaucoup d'inquiétude au niveau de la ligne pour réussir à ressortir ce bus, parce qu'il reste très peu de kilomètres maintenant. Je sais pas
combien. 10 km.
Ouais, et bien ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, parce que si le bus recule, il se peut que l'arche s'écroule. C'est une arche solide, hein, c'est pas quelque chose qu'on gonfle. Donc là, il y a beaucoup de inquiétude chez les organisateurs. Tout le monde est en train de se précipiter, et vous savez, ces hommes de la structure Doublet qui s'occupent de toutes les installations techniques ici sont en train de voir comment ils vont pouvoir réussir à sortir le bus. Mais je ne sais pas si Cyril de sa cabine voit ce qui se passe.
Je vois tout.
C'est assez incroyable, hein, Cyril. Oui. C'est la première fois.
Il reste 10 minutes pour sortir le car.
Ah, c'est pas gagné. Hein.
Ah, c'est pas gagné parce
que derrière, il faut savoir que sous l'arche, vous avez toute la partie électronique pour juger l'arrivée, et que tout ça est en équilibre très inconfortable.
Voilà, c'est très précaire. On nous a demandé d'éloigner.
D'ailleurs, je pense qu'on revient vers, on remonte maintenant vers la flamme rouge. Je ne suis pas certain que l'arrivée puisse avoir lieu.
Ah non, c'est pas certain du tout.
Le 100e Tour de France démarre sur les chapeaux de roue. Le bus Orica Green Edge est effectivement tanké, comme disent les coureurs, tanké sur la ligne.
Allez, on est à 10 km de l'arrivée.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Morceau de jingle.
Ah bah oui, ça rigole pas. Nous avons la flamme rouge, et maintenant nous avons le jingle des 10 derniers kilomètres. Mais le suspense, peut-être, n'est pas de savoir qui va emporter cette première étape du Tour de France, mais si seulement cette première étape du Tour de France va pouvoir être jugée dans quelques instants.
C'est pour ça que décision
des commissaires à l'instant, semble-t-il. L'arrivée sera jugée à 3 kilomètres de l'arrivée initialement prévue. On sera bel et bien dans Bastia, mais on n'aura pas à effectuer le demi-tour.
Il va falloir prévenir les coureurs quand même, de leur dire que c'est...
Merci les oreillettes.
Oui, tu vois que ça sert à quelque chose, Cyril, les oreillettes.
Une grande première.
Ah, ça, c'est du jamais vu.
On en a vu des arrivées modifiées pour...
Maudite, comme aujourd'hui, jamais.
De l'arrivée, la zone d'arrivée étant bloquée par un bus.
Voilà, vous venez d'entendre Jean-François Pécheux, le directeur de l'épreuve, qui vient donc de nous dire que nous n'étions plus qu'à 3 km de l'arrivée.
Donc les consignes sont passées au directeur sportif, on explique aux auditeurs. Les ordres de Jean-François Pécheux, le directeur de course, sont arrivés dans les voitures des directeurs sportifs des coureurs, qui eux, via les oreillettes, relaient l'information à leurs coureurs. Nous ne sommes donc plus à 8 500 km de l'arrivée, mais bien à 5 500 km. Pendant ce temps-là, il y en a qui doivent être bien occupés à gonfler une arche pour...
Oui, et puis il va falloir envoyer les chronométreurs, il va falloir envoyer les photos finish là-bas, parce que...
Il y a un chronométrage aux 3 km.
Il y a un chronométrage aux 3 km.
Et oui,
d'accord.
C'est bien pour ça qu'on a décalé
à cet endroit-là.
C'est parce que réglementairement, si une chute intervient dans les 3 derniers kilomètres ou un incident, le débours n'est pas pris en compte. Il y a donc un chronométrage aux 3 km.
Très Très bien, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit sur la route du Tour de France. Il a fallu attendre quand même le 100e Tour de France pour voir ça. Et la visite pour la première fois de l'île de Beauté, la Corse, pour assister donc à cette première, à savoir l'arrivée n'aura pas lieu sous la ligne d'arrivée, mais plus exactement 3 km avant, car un bus a accroché l'arche d'arrivée et il est bloqué en plein milieu de la ligne d'arrivée. Donc pour les spectateurs qui sont là, qui poirotent depuis ce matin, c'est super sympa.
Ils regarderont sur le grand écran.
Ils vont regarder sur le grand écran. Alors du coup, on va se préparer au sprint et puis on va essayer d'avancer la flamme rouge. Nous aussi, il faut tout qu'on organise.
Hein. Ah, mais attention, moi j'avais donné le cave, mais pas 3 km.
Ça sent bon pour Peter Sagan, du coup, l'acrobate slovaque de la formation Cannondale qui fait rouler ses hommes à l'avant du peloton. On est à moins de 3 km de l'arrivée. Du coup, maintenant, il y a les Cannondale, maillot vert fluo, les Orica Green Edge, responsables quelque part via la hauteur de leur bus de ce changement de ligne d'arrivée, puisqu'on vous le rappelle, un bus est coincé sous la ligne d'arrivée ici à Bastia, arrivé avancé à 3 km du lieu initial. Les Omega Pharma de Mark Cavendish emmènent pour l'instant de main de maître leur sprinter maison. Ils sont au grand complet. Voici les trois équipes qui mènent le peloton à 3 km de l'arrivée. Vraisemblablement, on n'est plus à quelques hectomètres près aujourd'hui.
Voilà, on va retrouver Georges Quirino qui, avec la moto RMC, s'est rendu sur les lieux de la nouvelle arrivée. Georges, je ne sais pas s'il est déjà en place ou s'il approche des 3 km. On va le retrouver dans quelques instants.
Il a décroché normalement.
Oui, il a décroché, mais il se rend justement sur cette nouvelle ligne d'arrivée qui est en train d'être réalisée, alors que le bus, lui, est toujours coincé. J'espère qu'ils vont le décoincer d'ici demain quand même, parce qu'autrement, ça va être difficile. Je ne sais pas où est passé le chauffeur.
Le chauffeur est à l'intérieur, il est confus. Il est confus.
Et à mon avis, il s'est enfermé.
Il s'est enfermé. Il y en a qui lui jettent des pierres. Non, c'est pas vrai. Allez, on va se concentrer donc maintenant sur le sprint final. Georges Quirino, la moto RMC. Non, elle n'est pas sur place. On le retrouvera tout à l'heure. Fred, on est donc à quelques hectomètres maintenant de l'arrivée. Ah, ça y est. Georges est sur place, sur la nouvelle ligne d'arrivée. Georges, raconte-nous, ça ressemble à quoi? Est-ce que tout le monde sait faire là aussi à 3 km?
Eh ben écoute, on va le découvrir en direct. On a passé la flamme rouge et la différence par rapport à une arrivée habituelle, la flamme rouge est à 4 km. Hein. Du coup, eh bien c'est que du coup tout n'est pas barriéré, c'est-à-dire que le public la route, donc ce sera peut-être un petit peu dangereux dans quelques instants pour ce qui sera la ligne d'arrivée. Voilà, on se le fait en direct sur RMC, ouais, ça qu'on va ressembler la ligne. Voilà, on la voit, elle est dans 100 mètres, la ligne d'arrivée à 3 km. C'est là, il y a un rétrécissement juste avant la ligne d'arrivée. Oula, on passe sur une voie. Mais à quoi ça va ressembler dans quelques instants? On passe actuellement. Voilà.
On prend des risques là, la direction du tour prend des risques.
Ça descend, c'est un rond-point, rétrécissement. Il y a un gros virage à gauche. Alors je sais pas si ce sera ça l'arrivée, mais ça ressemble à rien du tout.
C'est une arrivée Gymkhana.
Très dangereux.
Une arrivée.
Alors qu'ils ont débloqué le bus. Ils ont débloqué le bus. Donc peut-être vont-ils changer à nouveau leur fusil d'épaule.
Parce que ici, c'est pas possible.
Ici, c'est pas possible.
C'est en plein virage, je sais pas comment ils vont faire.
Alors, que va décider Jean-François Péchaud? On est à l'écoute évidemment de Radio Tour, la direction sportive de ce Tour de France qui va annoncer.
Ah, nouvelle chute!
Énorme chute! Énorme chute sur le côté gauche de la route. Fred, là, il y a du monde car on était dans le premier tiers de peloton.
Oui, tout à l'avant du peloton. Nasser Bouhanni, l'ancien champion de France qui était la principale chance de l'équipe de Marc Madiot qui a été pris dans une chute, notamment avec plusieurs coureurs de l'équipe Omega Pharma qui emmenait Mark Cavendish, Peter Sagan qui était le grand favori en cas d'arrivée biscornue. Arrivé Gymkhana est au sol, il se relève, maillot totalement déchiré. Est-ce que Mark Cavendish va être capable de jouer la victoire? A priori, il est toujours là. En tout cas, les Omega Pharma sont toujours organisés. Le maillot de champion d'Allemagne d'André Greipel est-il encore là? Difficile de le voir. J'ai l'impression que les principaux favoris ont été tous attardés par cette chute ou ont été pris.
Il y a Cavendish devant. Hein.
Cavendish est passé entre les mailles.
Kittel aussi.
Peter Sagan s'est relevé mais ne remportera pas.
Où va avoir lieu l'arrivée? C'est le suspense évidemment ici. Soit en 3 km, mais Georges nous l'a dit, c'est quand même assez compliqué avec un rétrécissement juste avant le passage sur la ligne. Soit désormais sur la ligne d'arrivée initiale, puisque le bus de Greenwich a pu être dégagé et que donc on peut juger l'arrivée là-bas, mais on n'a pas
La décision a été prise par la direction de course de faire l'arrivée à 3 km.
Pierre-Yves, justement, sur les lignes d'arrivée, Pierre-Yves Leroux, est-ce que tu as des informations concernant l'arrivée?
Alors ici, en tout cas, on est en position pour l'arrivée. On nous a demandé de nous mettre en place, mais il semblerait effectivement, on m'a fait un petit signe du côté d'ASO avec un non, l'air de dire ça n'aura pas lieu ici. On va demander à Florent, l'arrivée est à 3 km, c'est ça? Pour l'instant, il peut pas s'exprimer.
Ouais. Georges Quirino nous dit que non, l'arrivée aurait lieu sur la ligne.
Crevaison d'André Greipel, le principal adversaire de Marc Cavendish. C'est la zizanie.
Un dérailleur.
En tout cas, c'est râpé pour la victoire d'étape. Hein,
On est en position, Christophe.
Conséquence de la chute,
derrière la ligne, avec le pool photographe, etc. Donc, je pense que ça peut avoir lieu ici. On n'a pas la confirmation.
On vient de passer les 3 derniers kilomètres.
C'est confirmé.
On arrive sur la ligne.
Jean-François Pécheux, le directeur de course, vient de modifier ses instructions. On est passé à 3 km de l'arrivée et puisque le bus de l'équipe Auriga Greenedge a pu se décrocher de la ligne d'arrivée, eh bien elle aura bien lieu à l'endroit initialement prévu. On est à 2 km 600 de l'arrivée. Marc Cavendish a, semble-t-il, un boulevard pour remporter la 24e étape du Tour de sa carrière et endosser pour la première fois de sa vie le maillot jaune du Tour.
Voilà, Marc Cavendish qui est l'un des seuls sprinteurs rescapés de l'énorme chute qui a donc mis au tapis tout à l'heure plusieurs leaders et notamment, on le rappelle, Nasser Bouhanni, le sprinteur français de la FDJ. À noter également André Greipel qui a été victime d'un incident mécanique et qui est obligé d'attendre sa voiture et
Peter Sagan
blessé également. On fera évidemment le point tout à l'heure sur les blessés, sur les bobos. En tous les cas, on se rapproche de la ligne d'arrivée, la flamme rouge dans quelques kilomètres, dans un kilomètre très exactement puisqu'on est à 2 km de l'arrivée.
2 km de l'arrivée, ce sont les maillots blancs de la formation hollandaise Argos avec 2 sprinteurs maison, Marcel Kittel l'allemand et son compatriote John Degenkolb. Ces deux-là ont fait sonner la cavalerie pour rivaliser avec Marc Cavendish et pourquoi pas surprendre le sprinteur britannique de l'équipe Omega Pharma. On aperçoit également les vacances soleil qui mènent sur la droite de la route, les coureurs de Stéphane Lo, l'équipe Sojasun. On n'aperçoit plus de coureurs Omega Pharma pour emmener Marc Cavendish. Pas sûr que Cavendish soit dans un état optimal pour disputer cette arrivée totalement ubuesque. On est sur le bord de mer et les Omega Pharma ont repris.
Terpstra vient de sortir.
C'est Nicky Terpstra, effectivement, le coureur hollandais, coéquipier de Marc Cavendish, qui accélère fort. Ça veut dire que Cavendish n'est pas en mesure.
Contador retardé. Il est à l'arrière du peloton. Fred, on n'avait pas vu tout à l'heure, mais Alberto Contador a peut-être lui aussi été victime de la chute, ou en tous les cas a été retardé par la chute. En tous les cas, le leader de la formation Saxo, retardé, attendu évidemment par plusieurs de ses coéquipiers. On s'approche de la flamme rouge et Terpstra s'est extrait du peloton. Est-ce qu'il peut jouer
Cavendish est là?
Et moi, j'ai pas vraiment vu Marc Cavendish. On a cru voir tout à l'heure son maillot, mais moi, je le vois plus.
Le maillot de champion de Pologne. On rappelle que Cavendish est champion de Grande-Bretagne. Nicky Terpstra, qui a 400 mètres de la ligne d'arrivée maintenant, est repris par l'avant-garde du peloton. Ce sont les lotos d'André Greipel qui emmène, mais Greipel n'est plus là. Ce sera peut-être Greg Anderson qui prendra le relais, alors qu'un Omega Pharma vient essayer de seconder son sprinter Marc Cavendish. Alexander Kristoff, le sprinter russe de l'équipe Katusha, est en train d'aller créer la surprise peut-être, mais c'est Marcel Kittel, le sprinter allemand de la formation Argos, qui vient remporter sa première victoire sur le Tour à 22 ans. Marcel Kittel, qui était en tout état de cause un favori pour une arrivée massive, c'est bien lui, le solide et massif sprinter allemand, qui remporte la première étape de ce 100e Tour de France et endosse le maillot jaune au terme de cette étape
complètement dingue. Le final complètement dingue. On s'est ennuyé vraiment ferme pendant 180 km, mais c'est vrai que les derniers kilomètres nous ont réservé une belle surprise. Et alors là, il y en a un qui,
viens d'en revenir, les gars,
parce que complètement
l'analyse que j'ai faite hier, à savoir, attends, laisse-moi parler, Thierry. J'ai fait une analyse hier soir dans les paris. J'ai dit que oui, le grand favori aujourd'hui, c'était Marc Cavendish, mais sur une première étape comme celle d'aujourd'hui, avec un maillot jaune à la clé, un sprinter qui peut prendre le maillot jaune, il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire des chutes, un Marc Cavendish qui n'est pas au optimum dès la première étape. On s'en souvient encore l'année dernière, il a eu du mal. Et là,
Ça confirme bien ce que j'ai dit, ça confirme bien mon analyse hier. Il y a eu des chutes.
Tous les sprinteurs sont tombés.
Il y a eu des incidents dans le final et ça, mais Kittel était bien placé. Il en a profité. Il y avait toute son équipe autour de lui. Et voilà.
Et voilà. Et voilà le show qui va s'emparer du maillot jaune, le leader des parieurs d'RMC. On va tout de même essayer de voir s'il y a des dégâts. On a vu tout à l'heure que Alberto Contador avait été retardé. Tiens, on va tout de suite retrouver Pierre-Yves Leroux qui se trouve en compagnie de Thibaut Pinot. Pierre-Yves.
Exactement. Thibaut qui est arrivé avec ce premier groupe. Thibaut, vous avez réussi à échapper à la chute ou un petit peu de retard, pas grand chose.
On prend une cassure dans le peloton, donc on savait qu'il y aurait des chutes et ça frottait vraiment beaucoup. Quoi.
Alors que Marcel Kittel passe juste à côté de nous, le vainqueur de l'étape, c'était compliqué notamment sur les derniers kilomètres. C'était votre crainte évidemment en cette première étape. On sait que le peloton est un peu nerveux.
Ouais, il y avait beaucoup de nerveux et puis c'est comme ça, c'est les chutes à la partie du tour. Donc là, on perd du temps, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est toujours dommage de la course autour, c'est ça, c'est les cassures, les chutes. Et pour ça, d'en faire un objectif, c'est aléatoire.
On vient de voir Nasser Bouhanni passer à côté. Il était, semble-t-il, pris dans la chute. Il n'a pas l'air trop trop blessé.
Non, non, bah, il a roulé avec nous pour le final. Donc,
est-ce qu'ils avaient la consigne que l'arrivée était à 3 ?
C'est éviter la casse au plus possible, le mieux possible. Quoi.
Est-ce que vous aviez la consigne comme quoi l'arrivée était finalement jugée à 3 km ? Parce que c'est ce qui a été annoncé.
Ouais, on savait, mais bon, on savait pas trop. On prend la chute à 4 bornes, donc à 1 km près, ça passe. Et puis, on sait pas quel temps ils prennent, soit à l'arrivée, soit aux 3 km. Donc, ouais, c'est le merdier, quoi.
Vous êtes informé de passer sur la ligne d'arrivée ?
Non.
Le bus Orica Greenedge a été coincé par les panneaux publicitaires. Ça a mis du temps, ça a été juste pour pouvoir faire la ligne d'arrivée.
Ouais, ben, je sais pas, je me contente sur ma course, donc. Voilà.
Merci Thibaut qui va rejoindre son bus. On est juste derrière. On a donc vu Nasser Bouhanni passer. Il n'a pas l'air trop blessé. En tout cas, c'est ce qu'expliquait Thibaut Pinot. Il a réussi à rouler finalement pour rejoindre l'arrivée. Mais vous l'avez compris, de la déception un peu sur cette fin de course, sur le scénario assez incroyable. Alors qu'Alberto Contador est en train de passer à côté de nous. Alors je vous explique. Son maillot sur l'épaule gauche est ouvert. Il a donc chuté, Alberto Contador. Il y a beaucoup de monde autour de lui, notamment des caméras. Il est un petit peu vexé et je vais profiter, tiens, de Maxime Bouet qui est juste à côté de nous pour s'arrêter 30 secondes. Une fin d'étape, Maxime, assez incroyable.
Bah, incroyable, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, on nous a dit l'arrivée est à 3 km de l'arrivée. Donc je pense que la chute est due à ça parce que, à mon avis, ça s'est énervé comme si c'était le final et voilà, on s'était obligé qu'il y ait une chute avec ce qui s'est passé dans les oreillettes aujourd'hui. Ouais.
Alors que vous étiez à 10 km de l'arrivée, le bus d'Orica Greenedge est resté coincé sous l'arche qui symbolise la ligne d'arrivée et il a été dégagé simplement alors que vous étiez à 3 km. C'est pour ça que voilà, il y a eu la décision de faire cette arrivée un petit peu plus tôt et puis finalement ça, la vie a changé.
Ouais, bah ça je pense que c'est ce qui a dû un peu à la chute, une très très grosse chute, un final assez difficile quand même avec les routes un peu dangereuses, mais ça nous a mis un peu la panique quand même. Je pense que toutes les équipes et la chute à mon avis est quand même due à ça parce que déjà on nous dit l'arrivée à 3 km donc il n'y a pas de ligne par terre, qui va gagner? Voilà, je sais qu'il y a la borne automatique mais voilà, bon moi je pense qu'ils vont mettre tout le monde dans le même temps à mon avis parce que voilà, il y a eu beaucoup de chutes quand même dans ce final.
Merci Maxime qui n'est pas touché en tout cas, qui n'est pas blessé. Quant à lui, on a vu également Thomas Vauclair passer à l'instant avec du temps de perdu évidemment pour un certain nombre de coureurs. Il faudra quand même aller interroger dans quelques minutes les juges pour savoir exactement quel va être le classement de cette arrivée.
Oui, alors parce que là il y a un peu là aussi de confusion dans les résultats puisque actuellement les résultats que l'on nous donne, les résultats de l'étape nous donnent l'arrivée aux 3 km. Donc ce ne serait pas Marcel Kittel mais José Ivan Gutiérrez de la formation Movistar Lucho qui serait déclaré vainqueur. Ce serait quand même un sale coup pour toi ça, hein.
Non, moi je pense que il y a quelque chose qui s'est passé. Non, c'est pas possible.
Ouais, ouais. Non, c'est dans la confusion.
Dans
je
la
pense
confusion,
que,
oui. Voilà.
Ouais, pense que l'arrivée sera jugée avec Kittel vainqueur, mais
évidemment.
Mais bon, c'est vraiment.
Non, mais au niveau de la réglementation, Christophe. Vu l'étendue des chutes dans le final, dans les 4-5 derniers kilomètres, je pense que les commissaires vont mettre tout le peloton dans le même temps, parce qu'il y a eu quand même
chose, c'est pas une histoire de chute dans les trois derniers kilomètres, mais c'est que la confusion de l'arrivée à trois bornes ou à la borne, c'est vrai que ça a donné une certaine nervosité au sein du peloton. Voilà. Et puis, mais je pense que la sagesse voudrait que tout le monde reste dans le même temps.
Ouais. Très bien. Cyril, tu voulais nous dire un mot?
Justement sur ce point-là,
puisque
il y a un règlement, les commissaires doivent appliquer le règlement. Alors il y a de la confusion. Grâce aux oreillettes, on vient d'entendre dire qu'il y avait beaucoup d'énervement dans les oreillettes, ce qui veut dire que les directeurs sportifs devaient crier là-dedans comme dans une foire de balle, dans une salle de balle dans le temps, ce qui effectivement peut provoquer des chutes. Mais le règlement, c'est trois derniers kilomètres. Si on juge sur la ligne d'arrivée, on revient aux trois derniers kilomètres, ce qui veut dire qu'il y a certains coureurs qui peuvent perdre énormément de temps, comme Contador entre autres, mais il faudrait faire le bilan exact de tous les coureurs qui ont été pris dans la chute. Est-ce que tout le monde va être d'accord? Parce que sur ce cas-là, il faut que l'ensemble des directeurs sportifs soient d'accord pour qu'on dise, bon, la chute à 4 km de l'arrivée, eh bien, on la considère comme faisant partie du règlement et qu'on classe tout le monde dans le même temps.
Oui, mais Cyril,
c'est les commissaires qui prennent la décision, Cyril. C'est pas, ils vont pas demander l'avis des directeurs sportifs.
Non. Il y a trois personnes qui peuvent prendre les décisions. Il y a le président du jury, il y a une demande de l'organisateur qui pourrait demander à ce que, compte tenu de la confusion de ce qui s'est passé sur la ligne d'arrivée, on ne tient pas compte de la et qu'on classe tout le monde dans le. Et puis les coureurs, au cas où les deux premiers diraient non, on reste sur le règlement figé, et que l'ensemble des directeurs sportifs viennent effectivement poser réclamation, mais il y a ceux qui ont fini devant et ceux qui ont fini derrière. Alors ceux qui ont fini devant, ils vont se dire ah non, faut garder le classement comme il est là, c'est normal, il y a un règlement. Donc il faut qu'il y ait entente entre les groupes sportifs, l'organisation et les commissaires. Donc c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple.
Voilà.
Très bien. On rappelle donc la victoire de Marcel Kittel. On revient ici rapidement à Bastia pour l'arrivée de cette première étape du Tour de France. Arrivée très mouvementée, on le rappelle, avec une chute qui a mis à terre plusieurs grands leaders, notamment Peter Sagan et également Alberto Contador ou encore le français Nasser Bouhanni. Marc Cavendish a également été retardé dans cette chute et la victoire est donc revenue à Marcel Kittel, le jeune allemand de la formation Argo Shimano. On va faire un petit détour par Wimbledon. Malheureusement, c'est terminé pour Richard Gasquet, Eric Salio.
Ouais, grosse déception pour le français qui était sorti en 4-7 par l'Australien Bernard Tomic, 7-5, 5-7, 7-5, 7-6. Ça s'est joué à pas grand chose, mais décidément, il lui manque un petit truc au français cette année en Grand Chelem, quand on se souvient du match contre Wawrinka à Roland Garros.
Merci Eric, à tout à l'heure pour d'autres résultats, d'autres français sur les cours. Et puis nous, on va se retrouver dans un instant pour continuer d'analyser cette première étape du Tour de France avec un final très très mouvementé. On n'a pas encore les réponses à toutes les questions que l'on se pose. À tout de suite sur la route du Tour.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 18h, l'Intégral Tour évidemment sur RMC. Nous allons revenir sur cette première étape du Tour de France qui s'est donc achevée dans la confusion ici à Bastia. On vous rappelle la situation à quelques kilomètres de l'arrivée, à 10 kilomètres de l'arrivée très exactement. Eh bien, un incident s'est produit sur la ligne d'arrivée. Un bus d'une équipe s'est bloqué tout simplement sous l'arche d'arrivée, bloquant complètement cette ligne d'arrivée. Du coup, les organisateurs du Tour de France, pris par l'urgence, ont décidé de décaler la ligne d'arrivée 3 kilomètres avant celle-ci, avant la ligne d'arrivée initiale. Et puis, ce bus a finalement pu être débloqué et les organisateurs ont décidé de juger l'arrivée sur la ligne d'arrivée principale. Mais pendant ce temps-là, dans le peloton, il y a eu énormément de confusion, énormément d'inquiétude et de nervosité. Et une grosse chute s'est produite à 4 kilomètres de l'arrivée environ. Grosse chute qui a mis à terre plusieurs grands leaders de ce Tour de France, notamment Alberto Contador, qui a pu reprendre la course ensuite, attendu par plusieurs de ses équipiers. Mais Alberto Contador a été victime de la chute. Également pris dans cette gamelle, le français Nasser Bouhanni de la formation FDJ, qui était l'un des favoris aujourd'hui pour la victoire d'étape. Également pris Marc Cavendish, qui lui était le principal favori et qui rêvait d'endosser le maillot jaune aujourd'hui.
eh bien, c'est râpé pour Mark Cavendish. Et puis André Greipel, le champion d'Allemagne, a lui aussi été victime de la chute. Du coup, eh bien, à l'arrivée, c'est un Allemand, un jeune Allemand, un sprinteur redoutable, Marcel Kittel, qui s'impose. Marcel Kittel de la formation Argo Shimano, qui remporte donc cette première étape. Nous sommes toujours avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui vont évidemment revenir au micro dans quelques instants. Alors évidemment, Cyril, ce qui nous inquiète, c'est de savoir si tous les leaders vont pouvoir être crédités du même temps, car la chute a priori s'est produite à 4 km de l'arrivée, ce qui signifie à 4 km de l'arrivée que les gens pris dans la chute vont arriver et vont être crédités de leur temps, c'est-à-dire de leur retard sur la ligne. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Que va-t-il en être exactement? A priori, on semble tout de même se diriger vers une décision des commissaires disant qu'il n'y aurait pas de retard pour tous les gens qui ont été pris dans la chute. Cyril? Ah bah super, il est pas là, il y a personne. Lucho.
Bah oui, ça serait bien que les commissaires prennent cette décision, parce que c'est vrai, vu l'étendue de la confusion dans ce final de cette première étape du Tour, il serait normal de mettre tous les coureurs et de pas pénaliser les coureurs et de les mettre tous dans le même temps. Ça c'est évident.
Mm-hmm. Thierry, tu partages l'analyse?
Oui, je partage la même analyse. Ils peuvent pas faire autrement que cette de prendre cette décision, puisque il y a eu un changement d'arrivée multiple. Un coup c'était trois bornes, un coup c'était à l'arrivée normale. Je pense que la sagesse voudrait qu'on revienne à...
Pour la sérénité de tout le monde,
ben oui,
pour enlever la pression de tout le monde.
Parce que déjà, commencer un tour avec une arrivée pareille, c'est sûr que ça risque d'être vraiment compliqué.
Ça risque d'être compliqué. En tous les cas, le premier maillot jaune de ce Tour de France se nomme Marcel Kittel, le jeune Allemand de la formation Argo Shimano qui dispute son deuxième Tour de France. L'an dernier, il avait été contraint à l'abandon. Et bien là, aujourd'hui... il remporte cette première étape, non seulement la victoire d'étape mais également le maillot jaune. Cyril, c'est évidemment quelque chose de très important pour un jeune sprinter. On a vu la joie de Kittel il y a de cela quelques instants. Coup double pour lui, il profite évidemment de la chute de tous les autres leaders, mais c'est un jour béni pour Marcel Kittel, hein.
Ah, c'est surtout un jour de grande chance, parce que 1, il n'est pas pris dans la chute, 2, le classement ne se fait pas aux 3 km et quand il y a le sprint final, pratiquement tous les autres grands sprinters ne sont plus là, mais il faut toujours gagner, donc il faut passer au travers des chutes, il faut passer au travers de toutes les difficultés qu'il y a eu sur ces 10 derniers kilomètres. On disait à un moment qu'il ne se passait pas grand chose à 15 kilomètres de l'arrivée. Il se passe toujours quelque chose, et une course n'est jamais finie tant que la ligne n'est pas passée, mais c'est une course qui va sans doute laisser quand même des traces, parce qu'un certain nombre des leaders, on l'a vu avec Contador, sont allés par terre. Il va y avoir vraisemblablement quelques brûlures à soigner et quelques hématomes également à soigner. Alors maintenant, reste à savoir que va-t-on faire du classement général au soir de cette étape, puisque la chute a lieu à plus de 3 km de l'arrivée.
Alors on va essayer d'avoir des réponses avec nos envoyés spéciaux, Pierre-Yves Leroux qui se trouve toujours sur la ligne d'arrivée. Je ne sais pas s'il a de plus amples informations. On va voir avec lui dans un instant. En tous les cas, celui qui profite de cette histoire, c'est donc Marcel Kittel. On rappelle que Marcel Kittel est un jeune coureur allemand de 25 ans seulement, mais un redoutable le sprinter, hein, Cyril. Il n'en est pas à sa première victoire, loin de là. L'an dernier, il est... Ah, on est avec... Non, on n'est pas avec Pierre-Yves. Donc, Cyril, jeune coureur, jeune sprinter de grand, grand talent, hein, Marcel Kittel.
Oui, c'est également un bon rouleur. Il a un palmarès absolument extraordinaire. Et cette année, d'ailleurs, il s'est déjà fait Cavendish en Belgique sur des semi-classiques. Donc, un coureur qui confirme sur le Tour de France, bien sûr, sa pointe de vitesse, mais on le reverra dans d'autres circonstances, peut-être pas sur la Corse, parce que le parcours va devenir un peu plus difficile, et surtout il ne passe pas très très bien les bosses, donc il faudra attendre peut-être l'étape de Marseille et peut-être même après seulement pour le revoir disputer les sprints. Mais il fait partie avec De Gendt-Kolb, avec Cavendish, avec Boigny, qui malheureusement lui aussi est allé au sol, de même que Peter Sagan. Il fait partie des meilleurs sprinters mondiaux actuellement,
et en tous les cas il se fait une belle collection aujourd'hui, puisqu'il va décrocher tous les maillots. Le maillot de vainqueur d'étape, le maillot jaune, le maillot vert. À l'instant, il n'y a pas de classement de la montagne. Si, il y a eu une petite côte tout à l'heure en
oui, Lobato.
De course. Lobato,
qui le français Lobato, voilà, qui va prendre le classement de la montagne aujourd'hui.
Et qui tel qui a fêté ses 25 ans en mai. Donc il n'est plus dans le.
Non, il n'est pas dans les jeunes.
Dans le classement de, du meilleur jeune. Donc, en tous les cas, c'est un formidable succès pour ce garçon qui avait remporté au printemps dernier la deuxième étape de Paris-Nice et qui, je vous le rappelle, avait abandonné l'an dernier le Tour de France victime d'une gastro-entérite lors de la septième étape. 17h30. Tiens, on va écouter tout de suite la réaction de Jérôme Pinault, coéquipier de Marc Cavendish et de Sylvain Chavanel. Jérôme Pinault, interrogé il y a quelques instants par Pierre-Yves Leroux.
Sur, avec Jérôme Pinault, sur la fin de cette étape, Jérôme, expliquez-nous vous ce que vous avez compris de ce qui s'était passé.
C'est une étape typique de la première étape du Tour de France, des chutes, un bus qui reste bloqué là. On a entendu arriver 2 km après 2-3 km. Mais la nervosité, elle est aussi créée par ceux qui ont peur que ce soit nerveux. On a vu des équipes de leaders frotter, je pense à. Je ne sais pas citer de nom, mais bon, voilà. On les voit pas de l'année. Là, ils viennent frotter dans les 10 derniers kilomètres. Bon, ben voilà, ça fait badaboum. Quand on fait 20 courses par an et qu'on veut venir frotter sur le Tour de France, ben on tombe.
On imagine qu'il y a de la déception parce que dans votre équipe, tout le monde espérait que Marc Cavendish puisse endosser le maillot jaune ce soir.
J'ai pas vu les gars, je peux pas vous en dire trop, mais forcément qu'on est déçus. Mais bon, après, être déçu de quoi? Déjà, si on a Gert Stegmans et Tony qui peuvent repartir demain, on sera déjà très content. Le tour est très long. La route est belle. C'est grand, c'est large. Et je vous le dis, hein, moi, je suis pas sprinter, je vais pas frotter dans les 5 derniers kilomètres. Comme je suis pas grimpeur, je vais pas aller frotter au pied de l'Alpe d'Huez. Tant qu'il y aura un peu tout ça, tout le monde est frais, tout le monde veut être devant, ok, tout le monde veut être placé pour pas perdre de temps, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux, prendre 30 secondes et pas tomber, ou aujourd'hui il y a 5 ou 6 mecs qui vont pas repartir, hein, ils sont fracassés de partout, c'est dommage quoi. C'est dommage de dire on a peur que le tour va être, que la première étape soit nerveuse et qu'on crée la nervosité. Voilà.
Il y a des inquiétudes là pour Tony Martin.
Il se tenait le poignet, on sait qu'il a un scaphoïde très fragile. Gert a un scaphoïde très fragile, il se tenait le poignet aussi. On est très inquiet. Ouais.
Et Marc Cavendish.
Merci Jérôme Pinault. Juste derrière la ligne, pas trop d'inquiétude en revanche pour Marc Cavendish.
Merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. On va se quitter, on va se retrouver dans quelques instants. Fred, on va tout de même rappeler le résultat de l'étape avec donc la victoire de Marcel Kittel, qui aussi s'empare du maillot blanc meilleur jeune.
Hein. Oui, il a 25 ans dans l'année, donc il fait partie du concours pour le maillot de meilleur jeune. Marcel Kittel, 25 ans, sprinter de talent et solide, robuste de l'équipe hollandaise Argo Shimano, qui devance sur la ligne d'arrivée ici finalement à Bastia Alexander Christophe, le russe de l'équipe Katusha, et Danny Van Poppel, le Benjamin de France, 19 ans, le coureur de l'équipe hollandaise. Vacances soleil, évidemment maillot jaune pour l'Allemand Marcel Kittel. Et puis l'information, c'est que malgré sa chute, Alberto Contador est classé dans le même temps que tout le monde. Sage décision de la part du jury, des commissaires. La nervosité et le brouhaha de ce final de la première étape du 100e Tour de France ne coûtera rien en termes de temps au classement général à Alberto Contador, mais que de frayeur, que de suer pour les coureurs du 100e Tour de France.
17h33, c'est donc Marcel Kittel qui remporte la première étape du Tour de France. On revient pour l'analyse de cette première étape avec Fred, avec Cyril, avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Dans quelques instants, Marcel Kittel, vainqueur et désormais porteur du maillot jaune de leader. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
De retour ici sur la ligne d'arrivée de la première étape de ce Tour de France qui conduisait donc le peloton de Porto Vecchio jusqu'à Bastia, et une arrivée pour le moins mouvementée. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques instants ici à Bastia. En tous les cas, sachez que c'est le jeune allemand Marcel Kittel de la formation Argo Shimano qui a remporté cette première étape, faisant coup double, coup triple, coup quadruple, puisqu'il est désormais le leader du classement général, le leader du classement par points, donc maillot jaune, maillot vert, également le leader du classement du meilleur jeune, maillot blanc. Décidément, c'est un jour béni pour Marcel Kittel qui a su profiter de la chute collective
Sud qui a mis à terre plusieurs des grands leaders et notamment plusieurs des grands sprinteurs de ce Tour de France à 4 km de l'arrivée. Parmi eux, Nasser Bouhanni, le français de la formation FDJ, ou encore le grandissime favori de cette première étape, à savoir le britannique Mark Cavendish, qui rêvait d'un maillot jaune, le seul qui manque à ça, à son énorme collection. Mark Cavendish retardé et qui ne va donc pas porter le maillot jaune demain pour la deuxième étape de ce Tour de France. On va récapituler tout ça, Fred. Donc Marcel Kittel qui s'impose, ce n'est pas, et loin de là, un inconnu, notamment en matière de sprint, un redoutable sprinter. Il est jeune, mais il est très talentueux, ce Marcel Kittel.
Oui, il avait découvert le Tour de France l'an passé, mais avait été éliminé, on va dire, sur ennui de santé, ennui gastrique. Marcel Kittel, qui est la relève du cyclisme allemand, un cyclisme allemand qui a été mis à mal par les nombreuses affaires de dopage, par la défiance des médias outre-Rhin, et Marcel Kittel qui représente en quelque sorte la nouvelle génération du cyclisme allemand. Étonnant pour un sprinter après le règne de Jan Ulrich dans le cœur de ses compatriotes. Marcel Kittel qui avait à cœur de se faire pardonner son abandon après moins d'une semaine de course l'an passé, et qui vient décrocher, lui qui compte dans son équipe hollandaise Argos, un coéquipier qui est capable de le doubler en termes de sprint massif, John Degenkolb. Ils ont un fusil à deux coups chez Argos, et cette fois c'est bien Kittel qui a dégainé le premier. En fait, je crois qu'on a fait dégainer qui pouvait aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a même eu une incertitude, Fred, puisqu'on pensait que Mark Cavendish était toujours dans le peloton qui se dirigeait vers la victoire finale, mais en l'occurrence notre ami Cavendish a été retardé lui aussi. Alors tiens, on a la réaction de Jean-François Pécheux, je crois, le directeur de l'épreuve, qui est au micro de Pierre-Yves Leroux, pour savoir ce qui s'est passé et ce que vont décider.
C'est pas mal.
On l'écoute.
Pour ma dernière, c'est pas mal non plus. Bon, bref, non. Donc à 12 km de l'arrivée, on apprend que il y a un bus qui est coincé sous le portique, donc on peut pas faire l'arrivée. On a attendu. Quand on est arrivé à 10 km, comme rien n'avait bougé, on a pris la décision de faire l'arrivée à 3 km. Pourquoi 3 km ? Parce que on a une ligne au sol qui permet, avec les transpondeurs, de faire un classement. Puisque les vélos sont équipés de transpondeurs, on peut donc établir un classement à 3 km. Et puis, lorsqu'on a annoncé ça, bien sûr, le peloton a complètement réagi, ça a complètement changé. Il y a eu quelques petites bousculades, des chutes et tout ça. Et ensuite, à 3-4 minutes après, on nous annonce que la ligne d'arrivée est dégagée. Mais moi, j'ai en même temps les gens de Matsport qui me disent: attention, on n'a pas de photo finish, elle est tombée et il n'y a plus de photo finish. On prend le risque, on y va. On annonce donc que l'arrivée aura bien lieu sur la ligne d'arrivée. Et là, on est en train d'établir un classement, sachant que tous les coureurs seront dans le même temps.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une ligne virtuelle à 3 km pour ceux qui sont tombés avant, et ceux qui sont tombés
tant
à 5 km.
Tant pis. Je crois que dans cas exceptionnel, situation exceptionnelle, conditions exceptionnelles, il faut être sympa avec tout le monde. Tout le monde est dans le même temps.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette arche, Jean-François?
Je sais pas, j'étais pas là. Je suis dans la voiture. Moi, j'arrive avec les coureurs. Moi, quand je suis arrivé, l'arche était démontée.
Il y a des normes à respecter.
Des normes de quoi?
Au niveau des véhicules lourds.
Je sais pas. Attendez. Oh là là, mais attendez, pas là. Moi, je suis là pour la course, essayer de faire un classement. L'arche, on verra ça après.
Voilà, je pense qu'on verra Christian Prudhomme dans quelques minutes, qui nous expliquera ce qui s'est passé au niveau de cette arche hydraulique, et on va peut-être en savoir plus dans quelques minutes.
Très bien, merci Pierre-Yves. Il était énervé, Pépèche. C'est vrai, on lui parle des bus, et bon, qu'est-ce qu'il en connaît, lui, des bus, hein? Et Cyril?
Ah, mais il est dans la course.
Bah, il est dans la course, il peut pas voir. C'est pas son problème, en fait. Ouais. Hein, le problème, c'est que il y a le bus de Orica Green Edge qui est arrivé. Alors est-ce que l'arche est descendue ou pas, puisque tous les autres bus sont passés, et celui-là a accroché effectivement le portique, bloquant bien sûr le car sous le portique. Et pour dégager le portique, il fallait d'abord assurer que le portique reste debout, et pas seulement cela, mais également toute la partie électronique dans lequel il y a les caméras vidéo.
Oui, c'est ce que nous dit Jean-François, voilà. C'est
qu'en fait la caméra qui permet de filmer tout, l'arrivée et donc d'établir le classement.
C'était pas possible parce que tout est presque cassé, voilà. La figure, il a fallu faire un périmètre de sécurité pour les spectateurs qui étaient là parce que tout risquait de tomber. Et donc il a fallu aller tout doucement pour arriver. Alors on a baissé le car, on a voulu dégonfler également les pneus pour essayer de soulager en espérant que l'arche ne tombe pas. Et puis finalement il y a eu un miracle hein, sur le Tour de France, il y a quelques fois des miracles. Tout d'un coup, on a réussi à débloquer le car. Il a fait marche arrière, on l'a fait dégager à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée, de rentrer dans un parking. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les organisateurs ont pu dire, écoutez, l'arrivée peut se faire ici. Il n'y aura pas effectivement la photo finish. Mais bon, les commissaires sont aussi habitués à prendre.
Alain nous appelle au 32-16. Il voulait nous donner son avis, justement, sur ce classement établi. Donc tout le monde dans le même temps. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, oui, moi je voulais réagir parce que je trouvais que c'était anormal de donner tout le monde pour un zéro, parce qu'en fait c'est des professionnels, quoi. Il faut qu'ils gardent la tête froide, quoi. Moi, pendant des années, j'ai été pompier pendant plus de 18 ans au bataillon des marins pompiers de Marseille. C'est vrai que l'intervention a changé de la seconde à l'autre, quoi. Et chaque fois, j'ai toujours assuré, quoi. Après, j'étais professionnel, voilà, j'étais marin pompier, j'étais professionnel de ce que je faisais. Mais après, eux, ils sont soi-disant professionnels. Il faut qu'ils assurent, quoi. Il faut que savoir garder la tête froide. Les changements, ça se fait d'une seconde à l'autre. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien par rapport au sportif allemand qui a gagné. Et il faut absolument qu'il garde son maillot jaune, qu'il garde ses points d'avance. Et que les autres, ils ont chuté parce qu'ils n'étaient pas assez professionnels, quoi. Ils n'ont pas su garder la tête froide, quoi. Okay. Voilà, après, voilà.
Ok. Ok, voilà. Alain, merci pour cet avis, mais de toute façon, il va garder son maillot jaune, son maillot blanc, son maillot vert. Hein, Marcel Kitter, rassurez-vous pour lui, il y a pas de souci. Il reste vainqueur de l'étape également, mais en revanche, tous ceux qui sont derrière lui au classement général vont être dans le même temps puisque tout le monde est sur les mêmes chronos, le même chrono ici à l'arrivée à Bastia. 17h44, on se retrouve dans une petite minute pour continuer d'analyser cette première étape bien mouvementée. En tous les cas, le final. Parce que le reste, on s'est quand même ennuyé ferme. A tout de suite.
RMC sur votre iPhone. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.
Salut, c'est Pascal Olmeta sur RMC. Mercredi 17 juillet à 18h, le rugby club toulonnais accueille l'Olympique de Marseille au stade Mayol de Toulon pour un match mi-foot, mi-rugby, arbitré par Eric Cantona et Marc Lièvremont. Au profit de mon association, un sourire, un espoir pour la vie.
Billets et informations disponibles sur assopascalolmeta.com, dans les réseaux Fnac et sur tisport.com. RCT OM, mercredi 17 juillet à 18h au Stade Mayol à Toulon avec RMC.
Je m'entraîne pour le triathlon de Porquerolles le 28 septembre. Le plus impressionnant, ce ne sont pas les épreuves, elles sont accessibles à tous. C'est le paysage extraordinaire en plein cœur du parc national. Le triathlon de Porquerolles est original et unique. Natation, bike and run, trail. Il se court à deux. Inscription à partir de 55€ par personne sur triathlonoriginaldeporquerolles.fr. Une partie des inscriptions sera reversée à WWF France pour la protection de la nature. Il y a encore des possibilités d'hébergement. Faites vite!
Pour les dernières infos sur les courses hippiques, appelez le 3216, touche 4. V2V Sport présente les V2V Endurance Series. Venez vivre des week-ends inoubliables sur les circuits les plus prestigieux de France. Paul Ricard, Dijon, Manicourt vont vibrer au son des bolides des V2V Endurance Series. Des courses qui mettent à rude épreuve les machines et les hommes. Un spectacle où vous pourrez, en famille, goûter aux joies de la compétition et côtoyer le monde de la course automobile. Réservez dès à présent vos places. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Les 28, 29, 30 juin à Dijon Prenois. RMC Sport, c'est toujours plus de sport. Sur Internet, rmcsport.fr, sur iPhone avec l'appli RMC Sport et retrouvez aussi RMC Sport sur iPad. Le sport partout, tout le temps, c'est RMC Sport. RMC Sport partout avec vous.
Toute la météo de votre été par Météo France au 32-16 d'RMC, touche 4.
Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur.
Chez La Paire, devinez ce que vous allez adorer cet été.
Les travaux d'été, La Paire.
Oh oui !
Il y a des réductions, des petits prix sur tout, terrasse, porte, alarme, je vais bricoler.
Comment ça, vous allez pas à la plage ?
Je vais chez La Paire d'abord.
Mais moi aussi, je passe vous prendre !
Allez vite chez La Paire, jusqu'au 28 juillet, c'est les travaux d'été. Des offres incroyables comme la pose des volets roulants Bubendorf pour 1€ de plus.
La Paire, il y en a pas deux.
Conditions sur lapaire.fr.
Les performances habitation GMF. Nous vous proposons une assurance adaptée à votre budget.
à partir de 6,47€ par mois pour la location d'un deux pièces à Rennes. Voir conditions sur gmf.fr.
Et si le bonheur, c'était
de faire du catamaran sur les eaux turquoises de la Méditerranée.
De se ressourcer avec un massage aux huiles essentielles.
Ou simplement de prendre le temps de se retrouver.
À chacun sa vision du bonheur. Découvrez la vôtre Club Med. Cet été, 15% de réduction par personne sur votre séjour à Djerba Lédous en Tunisie en réservant avant le 25 août. Offre limitée valable à certaines dates. Autres conditions disponibles sur clubmed.fr. Club Med, et vous le bonheur, vous l'imaginez comment ?
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes de retour ici sur la ligne d'arrivée à Bastia, ligne d'arrivée de cette première étape du Tour de France, 213 km parcourus, donc entre Porto Vecchio, le sud de l'île de Beauté, et Bastia, tout au nord, pas tout à fait tout au nord, mais bien au nord quand même, et un final complètement inédit ici à l'arrivée à Bastia, avec beaucoup, beaucoup de confusion, un bus qui bloque l'arche d'arrivée, une étape finalement jugée 3 km, ou finalement sur la ligne d'arrivée. Bref, il y a eu beaucoup de confusion et surtout une énorme chute qui a mis à mal et mis à terre surtout beaucoup de leaders de ce Tour de France. On va essayer de vous résumer tout ça avec Fred Adam. Fred, on va peut-être commencer tout d'abord par la victoire d'étape qui revient à Marcel Kittel, le jeune Allemand de la formation Argo Shimano.
Le sprinter allemand de l'équipe Argos, Marcel Kittel, vainqueur cette année d'une étape de Paris-Nice, vainqueur l'an passé d'une étape du Tour d'Espagne qui était en fait une session de rattrapage pour lui qui avait découvert le Tour de France l'an passé, avait dû abandonner pour problème gastrique dans la première semaine. Marcel Kittel, 25 ans, qui devance ici sur la ligne d'arrivée le Russe Alexander Kristoff de l'équipe Katsusha et le Benjamin du Tour, 19 ans, Danny Van Poppel, fils d'un ancien coureur professionnel hollandais chez Vacances Soleil. Les principaux favoris ont été retardés, qu'ils s'appellent André Greipel ou Mark Cavendish, pris dans la chute ou retardé par des incidents mécaniques. Marcel Kittel qui endosse donc le premier maillot jaune du 100e Tour de France. Nasser Bouhanni, la principale chance française en cas de sprint, a lui aussi connu la chute. Il est allé tâter du bitume.
Voilà, on va essayer de prendre des nouvelles d'ici quelques minutes de tous les leaders qui ont chuté. On rappelle qu'Alberto Contador a également été retardé, que Peter Sagan avait le maillot complètement déchiré. Peter Sagan qui était quand même l'un des principaux favoris, peut-être pas pour la victoire d'étape aujourd'hui, mais pour être un grand animateur dans les jours qui viennent. Donc Nasser Bouhanni, Mark Cavendish a priori a été retardé. A priori c'est pas très grave, mais tout à l'heure ce que nous disait Jérôme Pinault, coéquipier de Cavendish, c'est que deux coureurs de la formation Omega Pharma Lotto avaient été sérieusement touchés.
Oui, dont l'ancien champion du monde du contre-la-montre Tony Martin, et il y a là aussi Gerd Stegmans qui est en quelque sorte le poisson pilote de Mark Cavendish dans les arrivées au sprint, lui qui s'est rodé pendant de longues années aux côtés de Tom Bonnen. Ces deux-là sont apparemment touchés au scaphoïde, mais il y a d'autres dégâts dans les autres équipes. Rappelons pour mémoire que le final a été perturbé donc par un bus coincé sous l'arche de la ligne d'arrivée ici à Bastia. Il est resté immobilisé pendant de longues minutes, ne pouvant enclencher ni la marche avant ni la marche arrière. Quelle image incroyable pour cette première étape du 100e Tour de France. Du coup, la décision a été prise par la direction de course de juger l'arrivée à 3 km du lieu initialement prévu. 3 km, c'était un moindre mal, mais finalement, le bus a réussi à se dégager grâce à un grand coup de marche arrière après de longues minutes. Et finalement, à quelques hectomètres de la deuxième arrivée, en quelque sorte, prévue à 3 km de l'arrivée, on a finalement décidé de juger l'arrivée au terme initialement prévu. N'importe quoi. Une chute à 4-5 km de l'arrivée a été provoquée en partie par les informations contradictoires qui arrivaient dans les oreillettes des coureurs. Également parce que c'est une première étape du Tour et qu'il y a toujours de la nervosité, de la peur pour certains leaders du classement général. Tous les ingrédients étaient réunis pour que cela finisse comme un gymkhana.
Voilà, gymkhana effectivement. Cyril, est-ce que tu penses que c'est justement la confusion, ces ordres et contre-ordres qui ont provoqué
provoqué la nervosité dans le peloton et fait que celui-ci soit victime d'une grosse chute? Est-ce que on peut en tenir responsable les ordres et les contre-ordres?
Par obligation, il y a une modification du schéma final, on va dire intellectuel et mental des coureurs qui se préparent pour une arrivée à un point précis et à qui on dit ça sera 3 km plus tôt. Et je pense qu'il y avait certains coureurs qui n'étaient pas, ou certaines équipes qui n'avaient pas encore commencé la remontée et qui recevant des ordres impératifs des directeurs sportifs se sont un petit peu paniqué pour remonter dans les premières positions. Et c'est Maxime Bouet qui disait au micro de Pierre-Yves tout à l'heure, il y avait une telle nervosité dans les oreillettes que c'est ça qui a provoqué la chute.
Ouais. Alors, Georges Quirino, vient de descendre de sa moto, il était là aux réactions, c'est chaud évidemment. Ouais. Je crois que tu as des nouvelles d'Alberto Contador.
Oui, alors on a appris que Alberto Contador avait effectivement été pris dans la chute à quelques kilomètres de l'arrivée. Il est touché à l'épaule droite, il est touché au coude, il est touché au genou droit également. Alors il nous a assuré qu'il n'y avait pas de fracture, que ça nécessitait seulement un petit peu de glace, mais qu'il verra demain matin, évidemment pas très content, tout comme son directeur sportif Philippe Mauduit, très énervé après tout ce qui s'est passé à la ligne d'arrivée et toute cette confusion. Mais je pense que quand on parle d'énervement, ce n'est rien comparé à ce que nous a dit le manager de la FDJ, Marc Madiot, furax contre le président du jury qui aurait pris cette décision donc de décider finalement de faire une arrivée à 3 km. Finalement pas, finalement oui. Il estime que ça a mis en danger les coureurs parce que certains ont préparé le sprint, certains sont arrêtés. Donc il estime que la responsabilité est due au président du jury. C'est vrai que c'était totalement la confusion. Thibaut Pinot à l'arrivée pensait qu'il avait perdu du temps en général, alors que si j'en réfère à ce qu'a dit Jean-François Pécheux, il n'y a pas de temps perdu. Et même Nasser Bouhanni, le sprinteur de l'FDJ, n'avait rien compris à l'arrivée. Il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait pas que l'arrivée avait été enlevée à 3 km. Certains le savaient, d'autres ne le savaient pas. Confusion la plus totale sur cette ligne d'arrivée et joie par contre du côté de Thiago Shimano, évidemment, pour Marcel Kittel.
On peut le comprendre puisque Marcel Kittel lui a su déjouer les pièges, déjouer les ordres et les contre-ordres pour remporter cette première étape. Donc l'information principale, c'est les blessures d'Alberto Contador. A priori pas de fracture mais de gros bobos pour Alberto Contador. Et si le tour d'Alberto Contador s'était arrêté ce soir, on aura évidemment de plus amples informations dans la soirée et demain matin. En tous les cas, il est touché, Alberto Contador, et on comptait énormément sur lui pour dynamiter la course. Va-t-il pouvoir continuer, va-t-il pouvoir tenir ce rôle? On en saura un peu plus dans les heures qui viennent. On vous tiendra également au courant des blessures de Nasser Bouhanni et de tous les autres, Peter Sagan notamment, qui a été victime de la chute. Tout cela, on va le développer dans le journal des sports dans quelques minutes, et puis avec Cyril Guimard. Et on se retrouve nous à 19h pour les débats dans l'intégral sport.